France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Au téléphone sonne, ce soir on va s'intéresser aux salles de cinéma et à celles et ceux qui les fréquentent. Dans un peu moins d'une heure et demie débutera donc la cérémonie des Césars. Eh bien profitons-en pour nous demander ce que nous venons chercher dans ces salles obscures que l'on donnait pour moribondes juste après l'épidémie de Covid. Or, depuis, les spectateurs sont revenus et en masse. L'an dernier, les salles de cinéma françaises ont attiré plus de 181 millions de spectateurs, 1 million de plus que l'année précédente. D'ailleurs, la France a connu la meilleure reprise post-Covid de tous les pays comparables, États-Unis compris. Alors, avec quels arguments les salles résistent-elles aux vidéos à la demande et autres plateformes qui nous incitent à regarder les films chez nous? Quels sont les critères des spectateurs au moment de choisir un film? Combien de fois par an se déplace-t-il dans les salles et avec qui? Le cinéma comme lien social, c'est notre prisme ce soir. Que vous fréquentiez les salles obscures, seul, en couple ou en bande, eh bien racontez-nous votre soirée cinéma, votre sortie cinéma. J'attends vos témoignages, vos questions, 01 45 24 7000. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Avec un premier témoignage, Julie est en ligne. Bonsoir Julie.
Bonsoir à vous.
Quel est votre témoignage ou votre question?
Alors moi, c'est plutôt un témoignage. C'est que pour moi, la sortie cinéma est une vraie sortie, c'est une vraie fête parce que je n'ai pas l'occasion d'y aller souvent. Et je choisis mon cinéma avec soin parce que je n'ai pas très envie d'aller dans un gros cube. Ces nouveaux cinémas qu'on nous propose ces dernières années, j'ai l'impression d'entrer dans un hangar et je trouve ça un peu triste. Donc j'aime bien les cinémas qui ont une âme, même s'ils sont vieillots, s'ils n'ont pas eu les fonds pour être fait à neuf, même s'il n'y a pas de pop-corn, je m'en fiche complètement.
Cinéma indépendant, notamment ?
Oui, indépendant, d'art et d'essai, avec des films à l'affiche qui ont de la gueule, quoi. Qui souvent sont recommandés par votre radio, donc je sais que je ne vais pas être déçue.
Merci beaucoup de ce témoignage et merci de votre confiance. Au passage, avec ce soir, trois vos invités pour vous répondre. Aurélie Delage, propriétaire et justement exploitante de Ciné-Lumière de Vierzon, cinéma indépendant. Laurent Delmas, producteur de l'émission On aura tout vu, chaque samedi à 10h avec Christine Masson. Et Fabrice Montebello, qui est professeur d'histoire et de sociologie du cinéma à l'université de Metz. Je vais peut-être me tourner vers Laurent Delmas pour cette première question. Cette auditrice nous dit qu'elle veut d'abord choisir un lieu sympa et aussi, j'imagine, avec de la qualité. C'est le cas des salles en France aujourd'hui.
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse
du
bon
film.
C'est un peu ça qu'elle nous dit, et je la comprends très bien. En même temps, je crois qu'on doit répondre à une certaine exigence de qualité, des fauteuils, de l'écran, du son, du silence, du chauffage, enfin bon, bref, un certain nombre de choses qui font quand même que on se sent bien dans une salle de cinéma, on a envie d'y rester longtemps. C'est quand même, en général, pour 2 heures, voire 3 heures, parfois même plus. Donc, il faut quand même qu'il y ait, je crois, une forme de confort. Après, j'entends parfaitement ce qu'elle dit. Il m'arrive d'être, moi, peu satisfait, effectivement, de rentrer dans certains multiplexes aux allures déshumanisées, où il faut monter des escalators pendant des étages et des étages pour atteindre une salle un peu coincée, d'ailleurs, un escalier. Bref, bon, je caricature, mais souvent, quand même, il y a cette façon d'envisager le lieu cinéma un peu trop moderne, peut-être, un peu trop froid, un peu trop glacé, un peu trop sombre aussi. Avant, on aurait envie de choses plus éclatantes et éclairées. Et puis, c'est vrai, on a tous la nostalgie des vieux cinémas.
Ce vieux cinéma de quartier.
Mais oui, bien entendu.
Et notamment, disait notre auditrice, aller voir les programmations des cinémas indépendant. Aurélie Delage, vous êtes propriétaire et exploitante du Ciné-Lumière de Vierzon, cinéma indépendant. On va peut-être rappeler pour commencer la raison d'être d'un cinéma indépendant. Quelle est sa vocation ?
Alors moi je crois beaucoup à la vocation sociale de nos lieux, alors au-delà de l'aspect culturel, et vous l'avez très bien dit en introduction, moi je suis convaincue vraiment de ce lien qu'on doit avoir avec nos spectateurs. Un cinéma dans une ville moyenne, pour moi c'est essentiel, on est ouvert tous les jours, donc vraiment voilà, ça renforce encore ce côté social, sociétal. Voilà. Et après, je suis évidemment très sensible à ce que vient de dire votre auditrice, puisque la programmation, pour moi, c'est le cœur de notre métier. Et sur un cinéma indépendant comme le mien, l'enjeu, c'est justement cette programmation, cette diversité que je dois offrir à mes spectateurs avec des films, par exemple, de la comédie, des films populaires, mais aussi des films plus exigeants, des films classés RSC. On est labellisé et on y tient. Et voilà. Et on sait aussi, voilà, tout le côté prescripteur que peut avoir la presse, que vous pouvez avoir, vous, Laurent Delmas. Donc, on est très attaché à ça.
Fabrice Montebello, vous êtes professeur d'histoire et de sociologie du cinéma à l'université de Metz. C'est quoi la vocation sociale d'un cinéma ?
Bonsoir. Ben, je pense que un cinéma, ou en tous les cas, le cinéma, il a pour fonction sociale, comme l'art en général, de produire du plaisir. Et la caractéristique du cinéma, qui est à la fois un art de masse et un art démocratique, c'est-à-dire qui non seulement s'adresse à tout le monde, mais une conception spontanée de l'expérience de l'art qui parle à tout le monde, qui intègre tout le monde. Donc le cinéma offre à la fois le plaisir du film, le plaisir de comprendre d'autres films en voyant les films, de comprendre l'art et de comprendre le monde qui nous entoure.
Et on a vu la vocation inclusive du cinéma se développer ces dernières années.
Ah ben moi, je pense que historiquement, le cinéma est véritablement lié à l'expansion démocratique de nos sociétés depuis son émergence au début du 20e siècle. Donc aujourd'hui, on dit plus facilement diversité, inclusion, on devrait dire tout simplement égalité, intégration, démocratie. Et par exemple, sur la question... une question centrale aujourd'hui de l'égalité homme-femme, d'une certaine manière, dans les salles de cinéma, bien avant que les femmes aient le droit de vote, on a pu avoir dans l'espace public, grâce au cinéma, des hommes et des femmes assis ensemble et pouvant participer à un même spectacle.
Et aujourd'hui, il y a plus de femmes dans les salles de cinéma, plus de femmes que d'hommes dans les salles de cinéma en France ?
Bah alors, il y a toujours, c'est effectivement une statistique originale, mais il y a toujours eu un peu plus de femmes que d'hommes. Je crois que sur les derniers chiffres du Centre national cinématographique qui date de 2023, on n'a pas le bilan global de l'année 2024, mais on a celui de 2023 et il y a une partie spécifique qui est consacrée à la question de l'égalité homme-femme, non seulement dans le domaine de la production, création cinématographique, hein, puisque le cinéma c'est un métier assez genré, masculin, même si des femmes réussissent à avoir leur part de plus en plus, à hauteur de 40%, globalement, hein, tous métiers confondus. Mais on sait qu'aujourd'hui, les femmes dans la société française, c'est 51% de la population et c'est 53% du public tel qu'on on le
Il me semble que d'après cette étude du CNC qui date de 2023, effectivement, dans un couple, c'est la femme qui est la plus déterminante dans le choix de la séance. Laurent Delmas.
C'est exactement ce que j'allais vous dire dans le couple et dans la famille. C'est la femme, effectivement, qui en général décide du film qu'on va aller voir.
Ça veut dire quoi ? Il y a un choix féminin, il y a un choix masculin pour aller voir des films. Alors, je sais pas, les Stallone, c'est pour les hommes, et puis j'ose pas faire les caricatures, mais on n'est pas loin quand même.
Ça veut dire que Aragon avait raison. La femme et l'avenir de l'homme. C'est ça. Non, je pense qu'il y a effectivement une prévalence sur cet aspect-là des choses. On sait bien que la charge mentale, par ailleurs, se charge, elle, de rééquilibrer dans le mauvais sens, mais qu'en tous les cas, dans ce domaine-là, oui, de la préconisation, de l'envie, parce que c'est l'envie hein, qui est au centre de la démarche. Hein,
Faut avoir envie.
C'est ça. C'est vraiment les affiches, les préconisations d'un tel ou un tel, les articles, tout ce qu'on... Ça passe au second degré. L'envie, le désir, c'est la première chose que les gens disent pour aller voir un film.
Et on va retourner au standard 01 45 24 7000 avec Rémi qui nous appelle de Chalon-sur-Saône. Bonsoir Rémi.
Oui, bonsoir. Moi je voulais juste vous parler de mes expériences de cinéma. Les premières fois c'était dans un petit village de 150 habitants. Il y avait quelqu'un qui passait avec son projecteur et qui nous passait des films sur un écran. Il y avait une vingtaine de spectateurs. Et j'ai enchaîné avec beaucoup de choses. Mes parents m'ont toujours emmené au cinéma justement à Chalon-sur-Saône. Et ensuite, j'ai été plutôt dans le midi, je me rappelle de Toulon, où j'allais au cinéma Utopia, il y avait notamment La Nuit du Fantastique, qui durait de 8h du soir à 6h du matin, avec un casse-croûte au milieu. Et je voulais, enfin, j'avais dit à votre collaborateur une phrase qu'avait dit Jean-Luc Godard, qui est pas forcément quelqu'un que j'apprécie forcément, mais il avait dit, ce que vous regardez à la télévision, c'est pas un film, c'est une reproduction de film. Il faut aller au cinéma pour apprécier un film, le grand écran, le bon son, et voilà. Et là, je voulais ajouter que j'ai été récemment voir un film que vous soutenez, c'est À Bicyclette. Et le réalisateur était présent dans la salle, on a pu échanger. Il faut aller voir ce film.
Merci beaucoup. Merci de ce joli témoignage. Je voudrais pas qu'on fasse une émission complètement nostalgique sur le cinéma de papa et les cinémas de quartier, mais je me tourne vers Aurélie Delage. Au-delà de la seule programmation, se déplacer dans un cinéma indépendant, c'est aussi un acte militant pour défendre quel type de cinéma ?
Alors ça, oui, c'est effectivement un acte militant. Après, on a la chance en France d'avoir un parc de salles qui est énorme, un maillage vraiment sur tout le territoire. Et je salue ce témoignage justement de l'auditeur, hein, de Rémi. C'est quand même une de nos forces, un des symboles de l'exception culturelle française. Et je pense qu'en effet, aller dans un cinéma indépendant, c'est un acte militant de la part des spectateurs. Après, c'est aussi pour les spectateurs aller au cinéma parfois le plus proche de chez eux. On sait qu'il y a des contraintes économiques aujourd'hui qui pèsent sur les spectateurs français, et je pense que ce maillage est vraiment une force, et qu'avoir un mono-écran, un multiplex à proximité, c'est aussi ce qui va déterminer le choix des spectateurs d'aller dans une salle. Voilà, le côté militant, j'en suis ravie, mais il y a évidemment un aspect de distance à prendre en compte aujourd'hui dans la fréquentation des salles.
Fabrice Montebello, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de sociologie du cinéma. Selon quels critères les spectateurs choisissent-ils leurs films ?
Ah ben, il y a des instruments de mesure, hein, pour évaluer la réussite potentielle d'une soirée, parce que c'est l'enjeu quand on aime le cinéma, quand on y va pour le plaisir.
Mais les outils de promotion, ils sont très influents.
Le nom des acteurs, le nom des actrices et le genre, par exemple, ce sont des instruments de mesure qui sont partagés aussi bien par les professionnels du cinéma que par les spectateurs. Ça reste toujours, encore aujourd'hui, notamment l'évaluation de la performance des acteurs, même si la promotion, la valorisation et d'une certaine manière l'innovation introduite par en France la nouvelle vague et cette forte valorisation de ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, qui a été repris comme une action publique, hein, de l'État, qui soutient ce cinéma-là, a contribué avec la scolarisation également à diffuser le nom du réalisateur comme un instrument de mesure de la qualité du film. Mais globalement, on pourrait dire que oui, le réalisateur, le nom des acteurs, des professionnels, ça peut être aussi le professionnel qui a fait la musique du film, etc. Le genre du film sont les deux catégories les plus utilisées, on va dire, par les spectateurs pour s'orienter dans la consommation cinématographique.
Laurent Dalmas, on va donc encore voir un film aujourd'hui sur un nom, comme on allait voir un Belmondo ou un Delon il y a 20 ans, 30 ans?
Je pense que c'est moins vrai qu'avant. Mais ce matin, nous entendions sur cette même antenne des producteurs dire que sans Pierre Niney, le comte de Monte Cristo ne se ferait pas. Bon, donc ça prouve bien que au moins
on fait des films sur un nom, voilà. Mais est-ce que les spectateurs viennent voir ?
Et j'en viens là. C'est effectivement la question. Après, on peut effectivement se poser la question de savoir si les spectateurs réagissent ou non. Le score de Monte Cristo laisserait penser qu'ils réagissent, mais il y a des contre-exemples avec des films de grandes stars qui ne marchent pas. Donc, c'est pas si simple que ça. Moi, je pense qu'on est dans des choses extrêmement compliquées à mesurer, et qu'au fond, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le plaisir, l'envie, et puis le bouche-à-oreille. C'est-à-dire que ça, c'est très important. C'est-à-dire que la machine à café, le matin, quand on a vu un bon film la veille, on le dit autour de soi. Et ça, moi, je crois beaucoup à ça, en famille, au boulot, entre amis. Il y a un effet d'entraînement. On voit bien qu'un petit truc en plus, les 10 millions, ils se fondent en partie aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a l'impression qu'il faut aller voir ce film parce que tout le monde en parle. Donc si on n'y a pas vu, bah, on est un peu ringard.
On est passé à côté de quelque chose.
Exactement.
Jean-Pierre est en ligne. Bonsoir Jean-Pierre.
Oui, bonsoir.
Vous êtes un cinéphile et je crois que vous connaissez bien le cinéma Lumière de Vierzon.
Eh bien, écoutez, oui, puisque je fais partie d'une association qui s'appelle le Ciné Rencontre. Et on a la chance d'avoir un cinéma indépendant à Vierzon. Donc Aurélie ne me connaît pas, mais moi je la connais, de visu. Et je dirais que c'est très important pour nous. Comme vous disiez tout à l'heure, un film, ce n'est pas simplement on voit un film, on rentre chez nous et c'est fini. Nous, après le film, on débat entre nous, des fois avec des réalisateurs ou des acteurs. Et ça me paraît très important que notre point de vue ne s'arrête pas à ce qu'on a vu sur l'écran, mais qu'on puisse en discuter après, ce qui fait que ça prolonge la soirée. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'un cinéma indépendant, alors j'ai rien contre les grands cinémas, les grands groupes, mais je m'aperçois quand même qu'on peut avoir des films de qualité, des documentaires de qualité, vraiment des choses qui nous parlent au mental, je dirais, et non pas des choses qu'on avale et qu'on recrache dès qu'on est sorti. Et ça me paraît important dans le monde dans lequel on vit, de pouvoir, si vous voulez, un petit peu poser ses valises après un film, de pouvoir en discuter et de pouvoir échanger. Parce que pour moi, le cinéma, ce n'est pas qu'un écran avec des acteurs, c'est aussi l'échange après. Et on a cette grande chance à Vierzon de pouvoir échanger après avec le Ciné Rencontre. Alors, je fais un petit peu de publicité, mais venez à Vierzon, venez au Ciné Lumière, ouais, et venez au Ciné Rencontre, s'il vous plaît.
On a bien compris qu'il y avait là-bas un cinéma sympa, visiblement, et compétent. Aurélie Delage, exploitante de ce Ciné Lumière de Vierzon, cinéma indépendant, je le rappelle. Le fait que les spectateurs participent de plus en plus aux animations proposées dans les salles de cinéma, les avant-premières, les conférences, même les retransmissions parfois de spectacles et même de sport, ce sont des leviers, peut-être pas jusqu'au sport pour vous, mais ce sont des leviers importants pour vous.
Ah, complètement, et ça particulièrement depuis la crise Covid, on s'aperçoit que les séances qui sont événementialisées fonctionnent très bien, que ce soit des avant-premières avec une équipe ou là, comme le disait Jean-Pierre, le ciné-rencontre avec ses soirées débats. Là, dans notre cas, on fait une soirée débat chaque semaine sur des films. Alors, il y a vraiment, là, pour le coup, une exigence souvent prononcée et vraiment, ça fonctionne. On voit sur ces journées que c'est la séance, souvent la meilleure séance en termes d'entrées qui sont réalisées. Voilà. Donc, le côté événement a été vraiment renforcé depuis la crise Covid. Et ça, on le voit sur l'ensemble des salles de notre territoire.
Véronique est en ligne. Elle nous appelle de Paris. Bonsoir, Véronique.
Bonsoir les cinéphiles.
Témoignage ou question ?
Non, un témoignage à Paris en faveur des cinémas indépendants. Ça représente 30 salles dans 13 arrondissements parisiens et c'est une programmation qu'il faut vraiment soutenir. Je n'ai pas entendu une partie de l'émission puisque j'étais au téléphone avec le Standard, mais pour moi c'est vraiment un acte militant que de fréquenter ces cinémas plutôt que d'aller dans les grands circuits qu'on connaît. Et puis, je voulais aussi parler des cinémas qui sont menacés, ces cinémas indépendants comme La Clé, il y a quelques années, qui est en train de revivre. Et puis, le cinéma Le Luminor, à côté de l'Hôtel de Ville. Je pense que c'est important de s'y rendre et d'être présent parce qu'ils font un travail formidable. Et puis, je voulais aussi ajouter pour la province, la Bretagne, il y a des cinémas en Ille-et-Vilaine, par exemple, Saint-Lunaire.
Bon, on ne va pas faire le tour de France des cinémas indépendants, voilà. Mais on a bien compris que c'était un peu votre tasse de thé. Merci beaucoup de nous avoir appelé et de ce témoignage. Pour rappeler, je me retourne peut-être vers Fabrice Montebello, prof d'histoire et de sociologie du cinéma à l'Université de Metz. En quoi le cinéma indépendant est-il menacé ?
Moi, je ne pense pas qu'il soit du tout menacé.
C'était l'avis de notre auditrice qui nous a rapporté plusieurs exemples.
Oui, le cinéma est une activité industrielle et commerciale. Il est né comme cela. Il était même, par rapport au débat précédent, le cinéma était populaire avant même d'être un art. Et ce n'est pas parce qu'il n'était pas encore un art que les personnes, par exemple, qui allaient au cinéma, ne parlaient pas entre elles de cet art à venir ou de ce cinéma. Et on peut aussi d'abord très bien échanger, par exemple, sur la qualité cinématographique, en échangeant sur la performance d'un acteur, sur la beauté d'une actrice ou d'un acteur, etc. Et je ne crois pas qu'il faille opposer un cinéma qui serait indépendant du marché. Je veux dire, même les grandes innovations d'avant-garde, que ce soit l'impressionnisme français dans les années 20, le cinéma réaliste des années 30, du réalisme politique, l'avant-garde, disons, de la nouvelle vague, on a toujours fait des films commerciaux. Les gens se rendaient dans les salles.
C'est une industrie aussi.
En achetant leurs billets. Il n'y a aucune raison d'opposer un cinéma indépendant d'un cinéma qui ne serait pas un cinéma commercial à un cinéma d'auteur. Et donc, je pense pas que, en tous les cas, pour les chiffres, la part des films recommandés dits art et essai, elle est toujours entre 20 et 30% ces 10 et 20 dernières années. Et le nombre de salles, parce que l'art et essai c'est un classement officiel de salles, n'a cessé d'augmenter depuis le lancement des premières salles art et essai à la fin des années 50.
La question ce soir sur ce que l'on vient chercher, ce que nous venons chercher dans une salle de cinéma. Appelez-nous, racontez-nous votre sortie cinéma 01 45 24 7000.
France Inter, le téléphone sonne.
Christelle est en ligne. Bonsoir Christelle.
Bonsoir à tous. Alors moi, je voulais parler du prix des billets. Alors pour ma part, j'habite Paris et j'ai la chance de posséder une carte dont je ne citerai pas le nom qui me permet d'aller voir plein de films à toutes les séances que je voudrais. Donc j'en profite et j'y vais une fois par semaine. Mais quand vous n'avez pas de carte, je trouve que les prix quand même restent excessivement chers. Il y a un cinéma, un grand complexe, pas loin de chez moi, et je regardais le prix il n'y a pas si longtemps, et c'était 15 euros la place. Donc une famille avec des enfants, je pense pas qu'il ira au cinéma toutes les semaines, quoi. Donc je voulais quand même dire que le cinéma, c'est sûr que c'est moins cher qu'un théâtre, qu'un spectacle, mais c'est quand même, dans les grandes villes, je trouve que c'est quand même assez cher. Si on a
Merci
pas
de ce témoignage. On va aborder le prix des places de cinéma. C'est un peu inévitable quand on parle de cette industrie, Laurent Delmas. D'abord, est-ce que les prix d'entrée dans une salle de cinéma sont les mêmes à Paris et en province?
Non, c'est là où les choses coincent un peu, c'est qu'il y a des disparités et des diversités très importantes. Je pense qu'effectivement, en province, on arrive à aller au cinéma pour moins cher, en quelque sorte, que dans des grandes villes ou à Paris singulièrement. Donc ça pose un problème, effectivement. Alors peut-être faut-il juste rappeler, pour être vertueux et faire en sorte qu'on aille quand même payer sa place dans la joie et la bonne humeur, c'est que sur chaque place vendue, de l'argent revient au cinéma lui-même et à la production.
Et à la création.
Et à la création, via le Centre National du Cinéma, dans ce système Robin des Bois, on prend de l'argent là où il est et puis on le redonne aux plus pauvres ou à ceux qui n'ont pas encore fait un film. Donc c'est vraiment un système vertueux et je crois qu'il faut y insister sur le fait qu'il y a une sorte de redistribution pour chaque place achetée. C'est comme ça aussi que le cinéma français est dans une sorte d'exception culturelle formidable. C'est un système qu'on nous envie, c'est un système qu'on exporte. Il a plein de défauts, certainement, comme tous les systèmes, mais il a cette vertu incroyable de faire en sorte que notre pays est certainement celui où on voit le plus grand nombre de films différents chaque semaine sur les écrans. Hein. C'est ça, il faut le répéter. De même que le nombre de salles, on en parlait tout à l'heure, mais le nombre de salles en France, c'est nulle part ailleurs. Hein. Je crois qu'on n'en a pas conscience parce que nous, on vit dans ce bain-là, mais il n'y a aucun autre pays où dans des villes de moins de 10 000 habitants, par exemple, vous avez un cinéma avec plus d'un écran parfois, hein, 2-3 écrans. Ça, c'est unique au monde. Chaque salle de cinéma est un trésor national, dans ce qui me concerne. Donc, il faudrait les préserver de cette façon-là. Après, on jugera les bonnes, les mauvaises, etc. Mais vraiment, je crois qu'il faut le redire pour qu'on soit bien conscient de l'immense chance que l'on a.
Et puis, il y a aussi la pratique du cinéma. Aller au cinéma, Fabrice Montebello, c'est d'abord une pratique collective. Les Français aiment y aller en bande ou en couple ?
Oui, le cinéma a toujours effectivement été une sortie, même lorsque, avant l'invention de la télévision et d'autres dispositifs de consommation, comme les tablettes, les ordinateurs, etc., le cinéma ne se soit en partie domestiqué. C'est toujours le cas, disons, depuis la domestication du film, depuis que le film est entré dans l'espace familial et domestique par le biais de la télévision, il y a eu une séparation entre le cinéma qui serait allé voir le grand film, le nouveau film qui vient de sortir, et on est dans la logique de la sortie et de l'événement, et puis la consommation des films à la télévision qui relèverait du quotidien, de tous les jours, on va voir le vieux film, ou alors la série télé, etc. Et donc, dans ce sens-là, le cinéma reste une sortie collective et toujours associée, ou moins en couple, toujours associée effectivement à une consommation plutôt collective, bien que les amateurs soient...
Les amateurs et les professionnels, ils vont, comme Laurent Delmas, ils vont tout seuls. Laurent Delmas.
Sur cette question...
Chez les cinéphiles extrêmement actifs, on peut avoir des pratiques solitaires.
Alors, sur cette question solitaire collective, il faut juste rappeler que il y a un petit débat de savoir si c'est Edison, l'américain, ou Lumière, le français, qui a inventé le cinématographe. Ben, la vraie différence entre Edison et Lumière, c'est qu'Edison, lui, il avait inventé un appareil où chacun était devant une boîte et regardait un film en baissant la tête, et que les frères Lumière, eux, ils ont inventé un appareil de projection sur un écran pour des salles collectives. Donc ça, c'est vraiment la magie du cinéma, d'avoir été immédiatement un art collectif. On va voir ensemble un film, et c'était vraiment, c'est très étonnant de rappeler ce moment d'histoire.
On va retourner au standard, Pierre nous attend, bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Paris.
J'appelle de Paris. Bah, écoutez, mon intervention, elle est en plein dans ce que vous venez de raconter, là, semble-t-il. Moi, j'ai toujours aimé les grandes salles. Hein. On parlait tout à l'heure des petites salles. Et moi, je trouve que c'est formidable de pouvoir aller au cinéma avec un bel écran, avec une belle qualité d'image, avec une musique, enfin un son formidable et où on est bien installé, si possible. Sinon on regarde un truc à la télé, quoi. Et moi, pour moi, le cinéma, on sort et on va voir quelque chose qui va nous en mettre plein les yeux. Alors, on peut être déçu des fois par le film, mais on a vu quelque chose de pas banal, quoi.
Merci de ce témoignage. Eh bien, je me tournais vers Aurélie Delage, dont je rappelle qu'elle est propriétaire et exploitante du Ciné-Lumière de Vierzon. La qualité de l'image, la qualité du son, c'est un coût aussi pour un cinéma indépendant ?
Ah, évidemment, et c'est un coût pour un cinéma tout court. Là, tout à l'heure, vous évoquiez la question du prix, et je me permets de rebondir dessus parce que c'est vraiment une question centrale et clé qu'on nous resserre très régulièrement. On a tous les cinémas, petits, moyens, grands, ont des charges fixes importante. Il y a trois principaux postes qui sont le loyer, et l'auditrice tout à l'heure parlait du cas de Paris, on le voit dans les grandes villes, c'est des postes qui écrasent vraiment les charges des cinémas. On a ensuite l'électricité, et là je ne vais pas vous faire un dessin sur la crise qu'on a pu connaître ces dernières années, et enfin les salaires. Donc ça, c'est vraiment trois postes clés, et ensuite évidemment la question de l'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, si on atteint quasiment 182 millions d'entrées en France, c'est parce que tous nos collègues investissent dans le confort de leur salle, dans les écrans, dans les fauteuils, dans les systèmes sonores. Moi, je pense que c'est ça, vraiment, le secret de cette belle fréquentation, c'est de continuer à proposer des films dans des belles salles.
Alors, voilà.
Peu importe la taille.
On parlait de militantisme et de qualité des salles tout à l'heure, notamment les militantismes pour le cinéma indépendant. Les salles de cinéma sont parfois très énergivores, et j'ai une question visiblement d'un écologiste qui me dit, mais les salles de cinéma, elles ne sont pas toujours écologiques. Est-ce que c'est un sujet pour vous à Vierzon ?
Alors, c'est un sujet, même, je dirais, plus largement à l'échelle de la Fédération nationale des cinémas français, qui s'en est emparée bien avant la crise Covid et qui s'est emparée notamment des questions autour du décret tertiaire. On sait qu'on est très gourmand, qu'on est des très bons consommateurs en électricité. Et très, très tôt, on s'est posé la question de comment optimiser ça. Et évidemment, la crise énergétique a renforcé cette curiosité pour l'ensemble des exploitants, de se dire, comment on fait pour limiter nos consommations ? On sait que les projecteurs, c'est énergivore. Donc là, aujourd'hui, il existe des solutions pour moderniser, alors sans remplacer complètement le projecteur, uniquement les lampes qui sont très très énergivores et par exemple les basculer en lampe laser. Là, on fait des économies, on est sur une lampe froide, mais qui va avoir une très très belle luminosité et un très bel éclat sur l'écran. Ça, c'est une solution. On a optimisé aussi les systèmes de climatisation pour éviter de faire chauffer les salles pendant des heures avant les projections. On va vraiment cibler les heures où on ouvre. Et vraiment, les exploitants se sont tous emparés de cette question. Il y a des formations aussi autour de l'écologie des cinémas qui sont proposées depuis début novembre par le Centre national du cinéma. Et vraiment, la fédération est complètement proactive sur ce sujet.
Eh bien, merci d'avoir répondu précisément à cette question sur l'aspect écologique des salles de cinéma. Au standard, Léa nous appelle de Pau. Bonsoir Léa.
Oui, bonsoir. Moi, ma question concernait... D'abord, je voulais témoigner sur le fait que je suis une fidèle des cinémas Art et Essai. Donc, au fur et à mesure que j'ai déménagé dans chaque ville, mon premier réflexe est de repérer le cinéma Art et Essai. Et que j'ai eu la chance d'avoir eu des programmations toujours d'excellente qualité, et en particulier, là, je suis à Pau depuis maintenant 3 ans, et c'est vrai que j'ai suivi justement le cinéma Art et Essai qui s'appelle le Méliès, et j'ai été vraiment enchantée de voir que le cinéma, qui était un cinéma de quartier, eh bien, c'est énormément agrandi et nous avons maintenant 3 salles, dont une de 300 salles avec des animations. Et donc, ma question porte sur le fait que, on a vu en termes de confort, maintenant nous avons une salle vraiment de très grand confort, de très grande qualité, avec un accueil, avec une ambiance, avec un cinéma, un café, et donc ça joue énormément. La fréquentation a énormément augmenté puisque il y a un public qui maintenant est fidèle, assidu et on
pardon,
va...
je vais vous presser un petit peu, mais je voudrais en venir à la question.
Bon, alors la question, c'était, est-ce que sur le plan du ministère de la Culture, par exemple, est-ce qu'il y a un budget qui est attribué à ces salles pour favoriser le confort des cinémas Art et Essai, ou est-ce que c'est uniquement de l'initiative d'une mairie ou du propriétaire du cinéma?
Bon, voilà, je vais me tourner. Merci beaucoup de cette question. Aurélie Delage, les cinémas Art et Essai, les cinémas indépendants, est-ce qu'ils ont des dotations pour entretenir et perfectionner le bâtiment?
Alors, on a en France un système qui s'appelle le fonds de soutien automatique. Laurent Delmas, tout à l'heure, parlait d'une part que vous prenez sur le billet qui sert justement à alimenter ce fonds de soutien. Alors, c'est un fonds de soutien complètement vertueux qui aide l'ensemble des salles, que vous soyez petit, moyen ou grand. C'est en fonction de votre nombre d'entrées, mais vous pouvez accéder à ce fonds de soutien pour moderniser vos salles, pour changer vos équipements, pour entretenir aussi l'équipement. Donc ça... L'ensemble des salles peuvent bénéficier de ce fonds de soutien. Et ça, c'est vraiment un système dont d'autres pays nous envient, parce que ça fait la qualité de notre parc.
Fabrice...
Après, évidemment, les collectivités sont aussi des moteurs pour accompagner. Là, vous prenez l'exemple de Pau. Je pense que c'est indispensable qu'il y ait des soutiens de la collectivité pour moderniser, agrandir et... Enfin, voilà, faire progresser les salles.
Fabrice Montebello, je ne voudrais pas qu'on termine cette émission sans évoquer la consommation du cinéma par vidéo par abonnement également. Ce sont les séries qui tirent leur épingle du jeu dans cette consommation par vidéo, par abonnement. Pour les films, ce sont toujours les salles de cinéma. En fait, on a le sentiment que chaque modèle a trouvé son public.
En fait, il ne faudrait pas, comme on l'a fait précédemment, de même qu'il ne faut pas opposer un cinéma qui sera un cinéma d'auteur ou indépendant par rapport à un cinéma qui ne serait pas assez mainstream, qui serait commercial. Je pense que tous les films sont dans un marché. Donc, de la même manière, il ne faudrait pas opposer le cinéma qui n'existerait qu'en salle, alors qu'on peut voir les films à la télévision, y compris les films qui sont sortis en salle quelques mois auparavant. Donc certes, voir un film à la télévision, voir un film dans une grande salle, c'est pas le même spectacle, mais c'est exactement le même film. Donc, on peut cultiver sa culture du cinéma en regardant les films à la télévision et en regardant les séries télé sur les plateformes par abonnement. Alors, c'est vrai que c'est la caractéristique de la consommation des programmes audiovisuels sur les plateformes. Ce sont les séries qui captent l'audience essentiellement, mais c'est lié au fait qu'il y a eu ces dernières années, une des caractéristiques de la production cinématographique, c'est la production de séries de qualité qui ont attiré de plus en plus les personnes.
Merci, merci à tous les trois d'être venus nous éclairer ce soir. Je renvoie à la cérémonie des Césars à partir de 20h45 et des Oscars à partir de dimanche soir à Hollywood. Laurent Delmas, on va vous retrouver demain 10h, on aura tout vu.
Oui, et allez au cinéma dans les salles de cinéma s'il vous plaît.
C'est la fin de ce Téléphone Sonne. À suivre l'heure philo, Patricia Martin recevra le neuroscientifique Lionel Nakache et le philosophe Nathan Devers. Et ce sera le thème de l'heure philo, donc avec Patricia Martin, après le flash de 20h et après les petits bateaux qui ont toujours une bonne question à poser.
Bonjour, je m'appelle Louise. Je voudrais savoir comment l'avion a été inventé. J'ai 6 ans.